9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
AVS, ça veut dire à votre santé. Bonjour, bienvenue Nabil Tatankwa est avec nous. What's up Nabil?
J'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle ambiance, nouveau décor et bah, toujours même enseignement malheureusement.
Nouvelle casquette.
Ah, exactement, on a investi. Nouvelle casquette, nouveau profilage.
La casquette Tatankwa vient de sortir.
Exactement, la casquette Tatankwa va envoyer du lourd. On a mis du temps pour la designer, mais là elle est sortie, c'est bon.
Nabil, formateur et conférencier, révélation 2019, transmetteur d'outils qui améliorent le quotidien des gens, spécialiste de l'ancrage des habitudes. On va voir justement ce matin comment on ancre des habitudes. Vous êtes l'une des deux personnes que je connaisse qui répondent à 5h le matin. La première, c'est Nadia El Bouga, et à vous.
Ça fait plaisir.
Vous êtes les deux seules personnes qui sont levées à 5h du matin.
On essaye d'incarner le message qu'on transmet.
Ouais. Qu'est-ce que vous faites à 5h du matin, vous, Nabil?
J'ai pas mal de choses à faire. 5h du matin, lecture, sport... un peu de méditation, de la prière. Je vous la donne dans l'ordre, dans le désordre, comme vous voulez. Quinté plus, dans tous les coups, ça marche.
Ouais. Ça, c'est jusqu'à 7h? C'est jusqu'à quelle heure?
Jusqu'à 7h, ouais. 7h15 exactement.
Donc, vraiment, ces deux premières heures de la journée, elles sont pour vous?
Ouais, c'est la base de toute chose. Bah, après, en fait, je suis pas dispo. Donc, je me suis dit, soit j'aménage et je fais. Donc, du coup, 5h, ça me va. Mm-hmm. Deux possibilités. Soit on se dit, ouais, j'ai pas le choix. Soit on se donne les moyens, on le fait. Mm-hmm. Bah, c'est un peu difficile au début, mais tout est difficile jusqu'à ce que ça devienne facile. Donc, ça fait partie du process.
5 heures, morning routine, comme on dit.
Exactement, la morning routine. Mais sauf qu'on nous dit souvent morning routine, mais on nous dit pas comment faire. Après, va dire à quelqu'un de se réveiller à 5 heures si toute sa vie, il a l'habitude de se réveiller à 9 heures, ça pique un peu. Ouais. Il y a un process. On dévoile un peu le process, petit à petit.
Vous êtes un communicateur né Nabil, alors vous avez une autre vie, hein. Vous êtes chauffeur de taxi, mais vous êtes spécialisé.
Exactement.
En fait, vous transportez des malades.
Exactement, spécialisé dans le transport de personnes malades. Ça fait quelques années, on a décidé de se spécialiser dans le transport de personnes malades.
Ouais.
Et je me suis rendu compte que c'est ce qui me faisait vibrer, donc petit à petit, j'ai décidé de ne faire que ça. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que bizarrement, ça va vous paraître peut-être bizarre, mais quand je fais du taxi, je travaille pas en fait. Je travaille pas, je fais ce que je kiffe. C'est mon kiff.
Donc, qu'est-ce que vous aimez dans votre métier?
Ah, il y a pas mal de choses. Déjà, la communication, l'échange, l'être humain. Ça, c'est la base de toute chose, selon moi. Et surtout, il y a un truc qui est assez bizarre avec le taxi, c'est qu'à chaque fois que les gens montent dans le taxi, on dirait une espèce de confessionnal. Donc, on se confie assez souvent au taxi. On se dit, bon, on va plus le voir, c'est un one shot. Donc, chacun monte avec ses problèmes divers et variés. Et j'adore essayer de remettre les faces du Rubik's Cube en ordre, comme j'aime à dire.
Mais les gens qui parlent à un chauffeur taxi, ils parlent à un dos?
Non, pas forcément en fait. Pas forcément. Des fois, quand c'est des personnes malades, les trois quarts, 80-90% du temps, elles préfèrent monter devant.
Ils sont à côté de vous?
Ouais, ils montent devant en fait. Parce que derrière, il y a plein de choses qui font qu'il y en a qui ne peuvent pas mettre la ceinture parce qu'ils ont des cathéters, vous savez, pour la chimio.
Pour les chimios, ouais.
Exactement. Et puis la plupart derrière, en fait, ils n'aiment pas trop parce que voilà, ça leur donne envie de vomir. Mmh. Donc ils montent devant et finalement, en fait, c'est ni un transport pour eux, ni un taf pour moi. Ils ont l'impression d'être avec un pote, c'est cool. Et puis moi, je suis avec des gens que j'apprécie et c'est cool aussi. Mmh.
Mais quelles sont les leçons de vie que vous apprenez en parlant avec les malades?
Tout ça, je l'ai résumé en une phrase que je dis souvent, c'est fais attention que plus tard ne se transforme pas en trop tard. Ça, c'est vraiment, j'ai scindé des années de transport de personnes malades. Et c'est vraiment, si je pourrais arrêter l'émission tout de suite. 9h03, ça fait 3 minutes, fais attention.
Ça m'arrange pas.
Non, mais vous inquiétez pas, on peut envoyer encore. Mais en grosso modo, fais attention que plus tard ne se transforme pas en trop tard. Si vous préférez, j'ai résumé des années, des milliers, vraiment des milliers de personnes que j'ai pu transporter. Personnes malades, hein, je parle, hein, bien entendu. Souvent, c'est toujours le même feedback, en fait. C'est toujours, quelle que soit la problématique ou la maladie par laquelle ils sont atteints, c'est quasiment tout le temps le même son de cloche. C'est j'ai planifié, je me suis dit, tatati, je vais faire ci pendant à la retraite, je vais faire ça. Et puis un jour, toc, 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 oui, bah, c'est la maladie, bah, là, il n'y a plus de planification. Et le truc qui revient tout le temps, même constamment, c'est « Ah, je regrette. J'aurais dû faire ça avant. » Le truc, c'est que tu fais des plans sur la comète, tu planifies, mais qui t'a dit que tu seras là demain? Donc, c'est toujours le même truc. Ça, je l'ai entendu vraiment des centaines et des centaines de fois. Si j'ai un conseil à vous donner, mon fils, si j'ai un conseil à vous donner, mon ami, faites ce que vous avez envie de faire maintenant, en fait. Ne remettez pas à plus tard. Donc, je l'ai scindé en une phrase qui est fais attention que plus tard ne se transforme pas en trop tard.
Et qu'est-ce qui revient dans les regrets, dans les premiers regrets? C'est quoi?
Il y a pas mal de...
Escalader l'Everest
Non, il y a deux trucs que je... Après, c'est simplement ma perception des choses. Mais les deux choses qui reviennent assez souvent, c'est le voyage. Ah, j'aurais aimé aller là, j'aurais aimé aller là. Par exemple, là, tiens, un truc qui me revient en tête. Il y a une dame, une fois, qui toute sa vie avait envie d'aller à New York. Et qui, financièrement parlant, en a les moyens. Qui en a les moyens larges. Sauf qu'elle me dit, oui, plus tard, là, j'ai pas le temps. Sauf qu'aujourd'hui, elle trimballe avec elle des bouteilles d'oxygène. Big up à elle si elle m'entend. Et en fait, elle peut pas prendre l'avion. Son état de santé ne peut pas. Elle m'a dit, si vous saviez le nombre de fois où j'ai pu aller à New York et j'ai pas voulu y aller, je me suis dit plus tard, et maintenant, aujourd'hui, je peux pas. Donc, les voyages, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses qui revient assez souvent, c'est des liens avec la famille. Vous savez, le conflit familial qui fait que des fois, on campe sur ses positions, sauf que quand la maladie vient, là, c'est plus. Il n'y a plus le temps de. Il n'y a plus de demain.
De se reparler, de parler.
Exactement, ouais, c'est assez complexe. Voilà, c'est assez complexe parce qu'après, en fait, le feedback n'est plus le même. Tu dis, bon, bah là, elle passe au confessionnal, voilà, c'est parce qu'elle est malade, c'est parce que si, ça. Alors qu'en réalité, elle avait ça en elle. Elle aurait pu le dire depuis 2, 3, 5, 10 ans. Mais je disais plus tard. Mais sauf que maintenant. Ah ouais, le chrono, il est lancé. Et puis, enfin, quand je dis le chrono est lancé, c'est dans les mains de quelqu'un d'autre que ça appartient, tout ça.
Et vous, en tant que chauffeur, assis à côté de ces personnes, comment est-ce que vous les aidez?
Ah, c'est du réconfort, beaucoup. Mmh. Beaucoup, c'est du réconfort. Et puis surtout, j'essaye de les extirper un peu de leur... c'est comme s'ils étaient bloqués dans une pièce, dans leur tête. Et voilà, je suis bloqué. Donc, on apporte de la joie, on apporte de la bonne humeur. Je remets un peu les phases dans l'ordre. Comme je vous l'avais déjà dit, enfin je sais pas, peut-être pour les gens qui me connaissent pas, mais j'ai été me former à la programmation neurolinguistique, à l'analyse transactionnelle, à l'énéagramme. Tout ça, c'est des outils qui permettent de comprendre l'être humain. Et donc du coup, je les fais cheminer dans leur tête jusqu'à ce qu'ils trouvent la réponse par eux-mêmes.
Mais finalement, les chauffeurs de taxi sont des bons coachs et des bons analystes?
Pas tous, forcément.
Souvent.
Bah, il en est pour qui? Tout dépend de quelle manière vous voyez le problème. Il y en a qui voient ça comme un métier simplement pour faire de l'argent. Il y en a qui n'ont pas envie de parler. Moi, j'ai pas mal de collègues, par exemple, ça les gave. Il me raconte sa vie et tout. Donc ça dépend de tout à chacun. Moi, je kiffe. Donc en l'occurrence, c'est fait pour moi.
C'est compliqué. Hein, quand on n'aime pas que quelqu'un nous parle, quand on est au volant, c'est compliqué.
Vous pouvez monter, c'est indéniable. Vous pouvez monter dans une voiture, le chauffeur, il écoute la musique, il vous donne ni l'heure, ni comment. C'est point A, point B, basta. Comme à l'inverse, exactement, il peut y avoir la même chose à l'inverse. Il y a des fois où des chauffeurs de taxi ont envie de discuter avec les clients, mais le client, il monte, il n'a pas envie de parler. Donc le truc, c'est de les amener, en fait. Bon, après, j'ai mes techniques, mais tu peux les amener à discuter.
C'est dire?
Je pense que c'est plus agréable. Bah, des petites phrases, des petites choses, un petit smiley. Et puis finalement, une fois que la porte elle est ouverte, hop, on peut rentrer. Mais ne jamais forcer quand quelqu'un qui n'a pas envie de parler, tu le sais. Mais généralement, tu le sais un peu dans l'attitude du visage. Mais c'est un truc que tu décryptes, en réalité, petit à petit.
Pourquoi la personne elle est fermée?
Il y en a qui n'ont pas envie de discuter. Vous ne savez pas ce qu'il y a. Chacun, il monte avec son bagage. Pas simplement le bagage qu'il met dans le coffre. Hein, son bagage émotionnel, son bagage de la vie, ses problématiques. Et puis des fois, la personne, tu peux te dire, le chauffeur peut se dire, ah non, vas-y, elle est rouleau, elle n'a pas envie de parler. Mais tu ne sais même pas ce qu'elle vient de subir. Tu ne sais même pas ce qu'elle a dans sa tête. La personne, elle est avec toi physiquement, mais en réalité, elle n'est même pas là. Vous pouvez parler des fois, ah pardon, vous me parliez à moi. Je pensais qu'ils ne sont pas là. Donc, mais ça s'apprend. Ça s'apprend.
Alors Nabil, vous êtes devenu le spécialiste de l'ancrage des habitudes. Quelle est l'habitude que vous avez prise, une nouvelle habitude que vous avez prise cette
nouvelle
année?
Habitude. Bah maintenant, c'est assez.
En 2019.
Maintenant, ça me fait rigoler parce que maintenant que je connais le process et que je l'enseigne en soi, je peux ancrer quasiment n'importe quelle habitude. Donc c'est un peu easy, c'est biaisé.
Ça marche sur vous alors?
Moi ça marche sur moi. Mais comme je vous l'ai dit, incarner le message que je transmets, c'est la base de toute chose. Je peux pas vous dire de faire quelque chose et je le fais pas moi. Donc en l'occurrence, vous me parliez de 5h du matin. Pour les gens qui... Ouais. Faut savoir que souvent quand on me voit à 5h du matin, on me dit ouais non mais parce que tu dois te... Non, tu m'appelles un dimanche, j'ai rien, je travaille pas, je suis en day off. Et puis je suis à 5h du matin, je me lève pas à ça. En fait je me lève pas à 5h du matin parce que je dois travailler. Je me lève à 5h du matin parce que j'ai rendez-vous avec moi, en fait. J'ai rendez-vous avec mon avenir, c'est ça, c'est la base de toute chose. Si tu te lèves parce que...
Vous avez remarqué, il a passé la vitesse supérieure là.
Ouais, ça y est,
en fait, on était assis dans la voiture, on était pépère, relax, tu vois.
Je me suis dit, non mais voilà, par exemple,
on était dans le charade, okay, tranquille. Et puis là, hop.
Non, parce que j'ai un débit de parole, il est assez rapide. Et je me suis dit, Nabil, canaliste, toi, donne du cool, tout ça. Mais en réalité, je suis plus comme ça dans la vie de tous les jours. Donc ouais, comme je disais, il n'y a pas très longtemps, je discutais avec quelqu'un. Je lui envoie, bon, donc en l'occurrence, je poste sur mes stories Insta, 5h du mat. Et il y en a un qui me dit, ah, moi je suis réveillé depuis 4h. Je dis, ah ok, c'est cool et tout. Je dis, mais pourquoi t'es réveillé depuis 4h? Il me dit, ouais, bah parce que je vais au taf, ça. Je dis, ok, mais moi, j'ai pas de taf, en fait. Tu vois? Je suis levé depuis 5h, mais j'ai rien. En vérité, je peux me lever à 10h si je veux. Elle est où la différence? Et avant ça, je lui ai dit, ok, les journées où tu travailles pas, tu te lèves à quelle heure? Il m'a dit, ouais, quand je travaille pas, c'est 9h30, 10h. Je lui ai dit, ok. Bah, moi, je me lève à 5h et j'ai pas de taf. On fait comment? Elle m'a dit, ah ouais, je lui ai dit, tu vois la différence entre quand tu te lèves pour quelqu'un et moi, je me lève pour moi, en fait. Pour moi. Et comme je vous l'ai dit, je peux pas transmettre un message si je l'incarne pas. Mmh. Donc c'est cool.
Alors les gens qui aimeraient se lever plus tôt, justement tous les matins, pour avoir du temps pour eux, peut-être pour apprendre une langue, pour aller courir, qu'est-ce qu'on peut leur proposer pour ancrer l'habitude?
Faudrait qu'on parle des habitudes, parce que l'habitude, faut bien faire la différence entre une habitude et une action à répétition. Déjà, c'est deux choses bien distinctes.
C'est quoi la différence?
Souvent, en fait, quand je discute avec des gens, il y en a beaucoup qui me disent « Ouais, j'ai essayé de fixer telle habitude, mais en réalité, ils n'ont pas réussi à la fixer. Pourquoi ?» C'est pas une habitude, en fait. C'est une action à répétition. Une action à répétition, tu fais ça quand il y a une deadline. Je vous donne un exemple. Vous me parliez de courir, justement. Quelqu'un qui, par exemple, tu prépares une course. Tu prépares une course, peu importe, t'as pas l'habitude.
On va dire mois d'avril, marathon de Paris.
Exactement. Voilà. Mois d'avril, tu prépares le marathon de Paris, donc tu dis, ok, je vais courir 4 à 5 fois par semaine pendant les deux prochains mois parce qu'il faut que je prépare le marathon. Il y a de fortes chances qu'une fois passé le marathon, tu cavales plus 4 à 5 mois par semaine. 4
Pourquoi
à 5 fois. Parce qu'en fait, c'était par rapport à une deadline. Une fois que la deadline, c'est pas une habitude. Mm. Tu fais ça par rapport
à un objectif à atteindre.
Exactement, à une deadline. Mm. Une fois que la deadline est passée, c'est pas une habitude. Mmh. Et souvent les gens en fait ils restent basés. Pourquoi ils font ça? Parce que les gens souvent ils restent basés sur le fixer une habitude en 21 jours. Je sais pas si vous l'avez déjà vu ou pas. Ça se dit ici et là, il faut 21 jours pour fixer une habitude. 21 jours. Sauf que 21 jours Ah ouais, ça n'existe pas 21 jours. En vérité c'est beaucoup plus que 21 jours,
ouais.
Sauf que c'est une étude qui a été, c'est une étude réelle en fait, mais qui a été reprise ici et là et tout par pas mal de gens,
ça concernait la chirurgie esthétique.
Exactement. Mmh. Si vous voulez l'exégèse de cette étude là, c'est dans les années 50, il y a un chirurgien qui s'appelait le docteur Maltz, M-A-L-T-Z me semble-t-il, qui était chirurgien plasticien. Et ce mec là en fait, qui était chirurgien, il s'est rendu compte que quand il faisait des chirurgies sur ses patients, les patients mettaient en moyenne 21 jours pour s'habituer à leur nouveau visage, nouveau nez, nouvelle poitrine, nouvelle pommette et tout. Mmh. Et donc de là, il en a déduit qu'il fallait 21 jours pour figer une habitude. Et suite à ça, le docteur Maltz, il a publié un livre qui s'appelle Psycho-Cybernétique, me semble-t-il. Une dizaine d'années plus tard, dans les années 60, c'est un livre qui s'est vendu à des millions d'exemplaires, où il parlait de justement figer une habitude en 21 jours. Et ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de gens ont repris.
Ça, c'est dit pour les gens, pour s'arrêter de fumer à une
exactement,
époque.
Exactement, sauf que les récentes recherches en neurosciences, notamment à la London College University, il me semble, il y a le docteur Philippe Alali qui avait fait une expérience sur 96 personnes, et il s'est rendu compte qu'en réalité, on n'était pas sur 21 jours, on était plutôt sur 66 jours. Mmh. 66 jours. Et il a essayé d'ancrer une habitude.
Ça fait un peu plus de 2 mois, quoi.
Exactement, on est sur du 2 mois. Mmh. On est sur du 2 mois, et c'est la moyenne. Hein. C'est la moyenne. Et sur des habitudes simples, des trucs tels que boire 1 litre d'eau pendant le repas. Ok, tu vas prendre l'habitude de boire 1 litre d'eau pendant le repas. On n'est pas sur du se lever à 5h du mat quand tu as l'habitude. Mmh. Bois 1 litre d'eau. Et bien, le temps que ça devienne une habitude, 66 jours. Donc on est un peu loin des 21 jours. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens, ouais, non, mais au bout de 20 jours, j'ai pas réussi. Mais c'est normal, en fait, t'es pas rentré dans le cercle encore.
Mmh. Donc, ça prend du temps.
Exactement, ça prend du temps, mais après, tout dépend. Enfin, ça prend du temps, tout est relatif en réalité. Parce qu'une fois qu'une habitude, elle est figée. Une habitude, une fois qu'elle est là, elle se perd jamais. Je parle bien d'une habitude. Hein. En fait, une habitude ne se perd jamais. Ça, c'est un truc qu'il faut le noter quelque part.
C'est définitif, une fois que c'est ancré.
Exactement. Ouais. C'est pour la même raison que si tu as appris à conduire une voiture, tu peux ne pas conduire pendant 4-5 piges, tu reviens, tu sais toujours conduire en fait. Pourquoi? Parce que le cerveau, il s'est dit que c'était important, donc il a figé ça dans une autre partie du cerveau. C'est pour la même raison que des patients qui sont atteints d'Alzheimer, à un moment donné, ils ont... tu te rends compte qu'il y a un problème sur la mémoire, en fait c'est sur leur mémoire à court terme, et que le mec, il se rappelle de faire un truc qu'il avait fait il y a 30 ou 40 ans. Mmh. Pourquoi? Parce que c'est pas stocké au même endroit. Donc une habitude, elle est jamais réellement effacée. Une fois qu'elle est là, elle est ancrée ad vitam aeternam.
Oui, c'est pour ça que les malades d'Alzheimer savent toujours conduire, faire du vélo.
Il y a plein de trucs, parce que c'est pas stocké au même endroit. Ça, c'est la base de toute chose. Et d'ailleurs, c'est pareil, c'est la même chose pour les mauvaises habitudes. C'est exactement la même chose, en fait.
Alors, on verra tout à l'heure comment transformer une mauvaise habitude en bonne habitude. Si vous avez des questions à poser à Nabil, t'attends quoi sur justement cet ancrage, cette fixation des habitudes? 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Avec Nabil, t'attends quoi aujourd'hui?
On est là.
Adopter une nouvelle habitude, technique et hack. Comment ancrer de nouvelles habitudes pour l'année prochaine? On a Marlène qui vous appelle, Nabil. Et là, Marlène, c'est du lourd, je peux vous le dire. Bonjour Marlène.
Bonjour, ça fait longtemps.
Salut Marlène, comment ça va?
Ça fait longtemps, Marlène.
Ça va, Nabil?
Oui, ça va, et vous?
Ça va, je suis au boulot.
Oh, au top, bon courage.
Et Marlène, vous connaissez Nabil?
Ouais, j'ai entendu à la radio.
Vous l'avez jamais vu?
Non, je l'ai pas vu. Je voulais bien le voir, moi. Comme un Nabil que je connais.
Ça fait plaisir. Il est visible. Il est visible sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur WhatsApp, sur Instagram, même sur Google. Il est googleisable. Vous tapez Nabil t'attends quoi? Je ressors. C'est visible.
Je suis dessus par.
Si vous avez Instagram, vous pouvez me trouver. Facebook, oui, vous pouvez me trouver. YouTube, vous pouvez me trouver. Au pire, même sur Google, vous me trouvez. Dès lors, si vous avez Google, vous êtes
oui,
au top.
Oui, j'ai tout. J'ai
c'est googleisable.
D'accord.
Comment ça va, vous, Marlène, aujourd'hui?
Ah ben, je suis là, je suis au boulot, mais comme il n'y a personne, je suis là.
Ah, je sens qu'il y a de la jovialité dans votre voix, Marlène.
J'attends l'heure où vous fêtez la Noël ce soir.
Ah, magnifique. Vous êtes où, Marlène? Oui. Vous bossez dans quel domaine?
Je suis gardienne.
Gardienne? Oh ouais, lourd.
Oui.
Lourd.
Pas si lourd que ça, non.
Non, lourd. Non, mais en fait, pourquoi je vous dis lourd? Parce que moi, j'ai une gardienne, je m'entends trop bien avec elle. C'est un truc de fou. C'est plus une amie qu'une gardienne. Parce que finalement, elle fait beaucoup plus de travail que ce qu'elle est censée faire.
Vous êtes dans un stade, c'est ça?
Oui.
Ah ouais? Il est où votre stade?
Oh!
Marlène, elle veut pas qu'on la découvre. Ok, Marlène, elle veut rester dans l'anonymat. Pas de problème.
Aubervilliers.
Ah, Aubert, ok, c'est noté, Marlène. C'est noté au top.
D'accord.
Si on passe du côté d'Aubert, on va faire 2-3 tours de stade là-haut.
C'est vrai, je suis à Pont-Blanc.
Ok, c'est noté. Bon. C'est noté, Marlène.
Eh bien, moi, je voulais demander.
Dites-moi.
Pour le café. On ne peut pas se séparer de café. Ah dans la tête.
Vous savez quoi? Je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais je suis caféinomane, moi. Et Philippe vous l'a assuré, je suis addict au café.
Me réveiller tôt le matin à 5h pour aller travailler. Pour moi, je suis toujours en retard. Jamais.
D'accord. Mais est-ce que vous avez, du coup, c'est quoi quelle est la question? Est-ce que vous voulez arrêter de boire du café ou est-ce que vous voulez ralentir le café?
Ralentir
le café. Vous êtes à combien de café par jour? C'est juste.
Pas au jour, le matin seulement.
Le matin. D'accord. Mais et ça vous dérange?
Café. Pardon?
Ça vous dérange?
Oui, souvent quand on boit trop de café, c'est trop fort, ça donne mal à la tête.
Ah, ok.
Comme je fais l'attention, alors c'est ça.
Ok, et pour quelle raison, du coup, vous buvez du café?
Eh bien, parce que c'est une question d'habitude.
Non, mais ça répond à un besoin. En fait, une habitude, ça répond à un besoin. Le principe d'une habitude, il y a trois choses qu'il y a pour en fait, une habitude, il y a trois choses avec lesquelles on appelle une habitude. Une habitude, il y a d'abord un signal.
Oui.
Un signal, ensuite, qui répond à une routine, donc en l'occurrence, l'habitude. Et l'habitude qui, elle, répond à une récompense, à un besoin. Ce que je veux dire par là, par exemple, vous vous levez le matin, il y a un stimuli. Le stimuli, c'est dès que je me réveille, j'ai pris l'habitude de boire le café. Donc, je bois le café, ça, c'est l'habitude. Et la récompense, c'est quoi? C'est, par exemple, je me sens mieux. Donc, vous buvez votre café pour vous sentir mieux. Et une habitude n'est une habitude que quand ça répond à ces trois choses-là. Signal, routine, récompense. C'est exactement, par exemple, on parle d'addiction, on parle du café. Ça peut être, par exemple, la même chose pour la clope. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui fument. Je ne sais pas si vous fumez ou pas.
Non, pas du tout.
C'est exactement la même chose pour la clope. Il y a un signal, un stimuli. Par exemple, ça peut être « je suis stressé ». Dès que je suis stressé, j'allume une clope. T'allumes une clope. Et pourquoi t'allumes une clope? Parce qu'après, je me sens mieux. La récompense, en réalité, c'est que tu te sens mieux. Et c'est une habitude que quand ça répond à ces trois stimuli-là. Et je vais vous donner un exemple, peut-être, qui va vous aider à y répondre. Il y a quelqu'un, par exemple, là, qui fumait, et en fait, il s'est rendu compte qu'il prenait l'habitude de fumer, parce que comme il n'avait pas le droit de fumer chez lui, en fait, il sortait dehors pour fumer une clope.
Ah oui.
Et en réalité, en fait, c'était pas la cigarette, c'est simplement sortir dehors.
Ah, pour aller dehors.
Mais lui, c'est pas lui, il dit, faut que je sorte pour fumer une clope. Alors qu'en vrai, non, le réel besoin qu'il avait, en fait, c'était de discuter avec des gens.
Ah.
Mais ça, lui, il le sait pas. Donc pour lui, il faut qu'il sorte fumer une clope. Mais quel est le besoin? Pourquoi tu sors fumer une clope? Tu sais qu'à chaque fois, tu rencontres tes voisins et que tu discutes avec eux. Et c'était ça, le vrai besoin.
D'accord. Oui.
Alors, Marlène, comment on fait pour lui, justement, pour lui faire baisser le nombre de cafés bu le matin?
Ouais, même moi, je ne bois pas beaucoup, mais mon mari, alors là, c'est 3-4 par jour.
D'accord, ouais, je suis à 12, donc 3-4, franchement, si j'étais à 3-4, c'est cool.
À 12?
Ouais, 3-4, c'est le starter, moi, avant de sortir de la maison, c'est le... Histoire de... Si. Non, mais c'est d'un commun accord avec moi-même. Je suis entièrement d'accord avec, donc c'est cool, il n'y a pas de souci. Bon, pour vous dire comment faire, en fait, parce qu'une habitude, en réalité, tu ne peux pas retirer une habitude.
On ne peut pas la désinstaller.
Exactement. Par contre, pour retirer, si pour employer votre terme, pour retirer une mauvaise habitude, il faut installer une autre habitude à la place. Donc, ce que je vous conseille, c'est à la place du café, remplacer votre café par autre chose. Vous êtes obligé de le remplacer. Ça peut être soit par un thé, soit par de l'eau, soit par quelque chose.
Je coupe, mais je dis, oh là là, j'ai pas bu café. Combien de temps il faut que je bois?
En fait, ne pas switcher direct. Si vous êtes à 4 cafés par jour et que vous avez l'habitude, faut pas passer de zéro. Parce que comme c'est une addiction, en fait, la caféine, c'est assez spécial comme habitude. Oui. Parce que je peux avoir l'habitude de mordiller mon stylo, c'est une habitude qui est cool. Si vous avez l'habitude de boire du café, le café, c'est assez spécial parce qu'il y a une addiction qui va avec. Donc, si vous arrêtez du jour au lendemain, vous risquez d'avoir des maux de tête, des migraines, et ça, c'est pas cool. Donc, si vous arrêtez, si votre corps est habitué à la caféine du jour au lendemain, essayez de vous sevrer, c'est comme quelqu'un qui arrête une drogue, du jour au lendemain, il a des migraines, ça déclenche des symptômes. Donc, ce que je vous conseille, c'est de ralentir, donc en l'occurrence, de ne pas switcher direct, de garder quand même un café qui est du starter, et celui-là, parce qu'il est primordial, et les autres, en réalité, de remplacer par un thé, par une autre boisson, une infusion, petit à petit, et jusqu'à ce que vous switchiez.
C'est pareil, le matin, je me réveille à 5h, si je ne me réveille pas, je suis malade, hein. Parce que j'ai l'habitude. Ah oui, je ne peux pas. Hein.
Et qu'est-ce que ça déclenche chez vous, en fait, par exemple, si vous ne vous réveillez pas? Qu'est-ce que ça vous déclenche?
Je suis malade toute la journée. Il faut que je me réveille le matin tôt, hein. Ouais. Même si je ne travaille pas.
D'accord.
Ah oui, je trouve ça m'énerve. Il faut que je sorte, aller nettoyer, aller faire quelque chose. Mais il faut que je me réveille.
Oui. Exactement. Bah, c'est parce que ça répond à un besoin, en fait. Vous êtes malade, ça répond à un besoin. Ça répond au besoin de sortir, de bouger. Donc, en réalité, en fait, c'est que votre corps, par exemple, a besoin d'aller prendre l'air. Donc,
oui.
C'est pas le fait que vous ne vous réveillez pas, en fait. C'est que vous ne répondez pas à votre besoin qui est celui de prendre l'air.
Voilà. Mais on me dit, tu vas où? Tu vas nulle part. Où est-ce que tu vas rester dans ton lit? Mais je ne peux pas. Ça va pas.
Non, Marlène, pour vous la faire short, parce qu'il y a d'autres auditeurs là qui appellent, la ligne est un peu saturée. Pour vous la faire short, le premier café, gardez-en un, et les autres, switchez. Mais n'arrêtez pas simplement le café. C'est-à-dire, gardez l'habitude que vous aviez et remplacez votre café par une autre boisson. Et vous verrez que petit à petit, ça va le faire.
D'accord, merci.
Je vous en prie, Marlène, je vous souhaite une bonne journée. 93-300 Aubervilliers.
Et moi, je fais un gros bisou à Marlène.
Merci.
À bientôt, Marlène.
Salut, Marlène.
On accueille Sonia Nabil, si vous voulez bien. Sonia, bienvenue sur Beurre FM.
Oui, bonjour.
Bonjour Sonia.
Bonjour Nabil, bonjour Philippe. Alors moi, c'est très simple, c'est concernant le jeûne du mois de Ramadan.
Ouais.
Moi, j'aimerais juste avoir une aide concernant le début du jeûne, parce que très souvent, comme je suis anémiée, j'aimerais avoir des conseils pour éviter d'avoir ce fameux mal de tête pendant une semaine, le début du jeûne.
Magnifique. Pourquoi? Parce que pour la simple et bonne raison que j'ai exactement le même cas de figure. J'ai la même problématique. Vous êtes anémie, mais vous êtes addict à la caféine aussi?
Oui, aussi.
D'accord.
Donc je pense que ça vient surtout de là, mais mon café, du coup, je fais le surhold pour prendre mon petit déj. J'essaie de prendre un petit déj bien costaud. Mais le café, je le prends aussi, donc je ne sais pas si c'est dû au café.
En fait, il faut commencer à sevrer quelques jours avant.
Oui,
c'est un peu la même chose que j'ai dit à Marlène juste avant. En fait, dans la caféine, c'est assez vicieux, puisque la caféine, en fait, on déclenche une addiction à la caféine. Et comme je vous ai dit, c'est un peu la même chose qu'une drogue.
Que l'odeur, pendant le Ramadan, rien que l'odeur, moi, ça m'enivre.
C'est exactement ça. Donc, en fait, il faut commencer quelques jours avant. Quelques jours avant, il faut commencer à diminuer les doses.
Oui.
C'est-à-dire 4 ou 5 jours avant, commencez à diminuer les doses. Si vous êtes à 2 cafés, hop, même une semaine avant, en fait. Commencez
mais
à diminuer.
Parce que 2 cafés, c'est pas non plus incroyable, mais à ce point, c'est-à-dire que le café, c'est devenu, enfin, c'est une drogue légale, ça, on le sait. Mais on s'en rend compte vraiment à partir du moment où on décide d'arrêter ou de diminuer les doses.
Pourquoi?
C'est ça qui est impressionnant avec le café.
Le truc, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, il y a un stimuli. Il y a des choses qui déclenchent l'habitude. Si par exemple le matin, vous avez l'habitude, dès que vous vous asseyez sur votre tabouret dans la cuisine, c'est pour boire le café. Dès que vous allez vous asseoir sur le tabouret dans la cuisine, ça va, c'est comme un bouton, hop là. Et ben ça déclenche le stimuli.
Moi, c'est même pas ça. Moi, c'est le bien-être par rapport à mes collègues. Par exemple, dès que j'arrive le matin, c'est devenu une habitude d'aller voir mes potes, de leur dire bon, venez, on va prendre le café.
C'est ça le stimuli, en fait.
C'est ça
le stimuli. Parce qu'en fait, pour vous avez associé le café à bien-être, à détente. Du coup, dès que je vais à la magie, ouais, c'est mon café, c'est mon petit moment de truc. Bien-être, détente. Faut switcher. Comme je vous ai dit déjà quelques jours avant, ça c'est pour l'addiction, pour le mal de crâne. Quelques jours avant, diminuer. Et quand vous êtes avec vos amis, trouvez quelque chose pour remplacer ça. Est-ce que vous avez vraiment besoin du café pour passer du bon temps avec vos amis? Ou est-ce que vous pouvez passer du bon temps avec vos amis sans pour autant le café? Trouver quelque chose d'autre?
Moi, j'adore la bouffe, donc le café.
Pendant le Ramadan, c'est assez compliqué là.
Ouais,
c'est ça. Mais du coup, on se rattrape le soir. Mais c'est vrai que le soir, moi, tout de suite, je fais la connerie, c'est que je me dis, j'ai juste envie d'un bon café, quoi. C'est même pas j'ai faim, j'ai envie de salé. Moi, j'ai juste envie d'un café. Après, je peux manger plus tard, ça me dérange pas. Mais c'est ça aussi.
Ok, mais ça vous pose un problème de boire un café le soir?
Bah, est-ce que c'est vraiment bon pour la santé de commencer par le café?
Ça, je, malheureusement, j'ai pas le.
Parce que c'est
pas répondre,
que
Philippe, peut-être. Est-ce que c'est dû à votre avis?
Il faudrait demander à un docteur. Moi, je fais la même chose que vous.
Moi, je fais la même chose. Moi, en fait, toute la journée, j'ai pas bu de café. Je commence je casse avec une date, et puis après, je bois mon petit café. Mais il y a aucun souci à boire un café quand je n'ai pas bu de café pendant 14 heures ou 18 heures. Je trouve pas
ça. Non, mais surtout pour vous, ça doit être un peu plus compliqué là, parce que 12 cafés, c'est quand même.
Je vous ai dit. Moi, je ralentis. Je ralentis énormément. Et moi, le matin au sport, en fait, je mets une double dose. Je bois plus que ce que.
Mais, en tout cas, Sonia, c'est une super question. On va la poser au docteur Alouche de savoir effectivement, quand on a jeûné toute la journée, est-ce qu'il y aurait un risque à prendre un café comme ça
Là, on est dans une autre.
C'est médical. On posera la question au docteur Alouche, Sonia, si vous voulez bien.
Oui, avec plaisir. Et j'aimerais bien aussi parler du jeûne intermittent. Je trouve ça vachement intéressant.
On a prévu de faire une émission sur le régime cétogène et sur le jeûne intermittent dans le mois de janvier. Donc voilà.
Oui. Et d'ailleurs, au niveau des habitudes, au niveau du jeûne, je trouve que déjà, moi, personnellement, au bout de 2 semaines, mon corps s'habitue. Et du coup, cette sensation de faim,
elle
disparaît, mais c'est impressionnant parce qu'on se rend compte à quel point manger même une fois par jour serait suffisant pour son corps.
En fait, c'est exactement ça. Les habitudes, en réalité, si je devais vous donner les métaphores, les habitudes, quand ça commence, c'est un peu comme un fil de soie. Qui petit à petit, en fait, le fil de soie se transforme en câble en acier. C'est-à-dire qu'au début, c'est assez light, ça peut claquer à tout moment. En fait, plus vous répétez la chose, plus vous tissez le fil de soie, et plus en réalité, ça devient un câble. Bon, une fois que vous avez pris l'habitude, si vous le vouliez, vous pourriez jeûner toute l'année en vrai.
Oui, non, mais totalement. Et je suis même après dégoûté de la bouffe. Après, quand on reprend, on est là à faire l'aïd avec les gros.
Parce que vous aviez pris l'habitude, vous avez commencé à prendre l'habitude, et après vous repassez à autre chose.
C'est tellement sain, on se rend compte vraiment qu'on se pourrit la santé à ingurgiter des tonnes et des tonnes de merde, franchement.
Mais ça, c'est un choix, en réalité. C'est exactement ça.
On s'en rend compte vraiment, et je trouve ça beau, en fait, ce mois. Parce que ça, on se rappelle de tellement de valeurs, et de juste cette valeur-là, par rapport aux besoins alimentaires, elle pourrait être vraiment diminuée. Et on pourrait vraiment vivre avec peu de choses, mais bon.
C'est exactement ça. En réalité, pendant le mois de Ramadan, tu te rends compte que quand tu veux, tu peux.
Exactement.
Et quand on peut, pour moi, on doit.
C'est un beau rappel.
Magnifique.
Merci Sonia.
Merci beaucoup.
Bonne journée Sonia.
Bon moment. Merci Sonia. On prendra d'autres appels dans un instant si vous voulez interroger. Nabil, t'attends quoi sur les habitudes? Vous composez le 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, Nabil, t'attends quoi est notre invité, une des révélations de cette année, en 2020, un nouvel impact, Nabil, puisque vous sortez votre formation, justement sur les habitudes.
Exactement, d'ici vendredi, ouais.
C'est vrai, vendredi?
Ouais, vendredi.
Elle s'appelle comment votre formation?
Comment figer une habitude en 7 étapes.
Très bien.
Je me suis dit, j'en avais marre, ça part d'un constat en fait. J'en avais marre des formations qui durent super longtemps, et moi-même pour en avoir bouffé pas mal, ça dure très longtemps, et puis finalement à un moment donné tu restes perdu au milieu de la formation, tu l'as jamais fini, et peut-être que le nectar il était 2-3 modules après, et t'as eu la flemme d'aller jusqu'au bout. Donc comme j'aime aller à l'encontre du prêt-à-penser, je me suis dit écoute Nabil, pars du postulat où si t'avais une heure et demie à 30, ok donne-moi 1h30 comment figer une habitude, voilà, en fait je sors d'ici, let's go. Je me suis claqué, et du coup j'ai fait la formation en 7 étapes. Il y a du nectar, il y a du condensé, tu la suis, il n'y a qu'un faucon. C'est bon.
Vendredi.
Ouais, vendredi, Inch'Allah, c'est disponible.
Vous demandez au père de Nawel sur la liste, et puis voilà. Lila est avec nous, on va à Toulouse, 01 53 48 3000. Lila, bienvenue sur Beurre FM.
Oui, bonjour Philippe.
Salut Lila.
Oui, je voulais m'excuser pour jeudi dernier, j'ai pas pu appeler parce que j'étais très occupée.
C'est ça.
Et j'ai pas pu appeler pour l'hernie discale. Donc je voulais intervenir par rapport au Ramadan.
Oui.
Et le mal de tête, les migraines et tout, parce que j'ai le même problème, et je prends le café le matin, mais comme le corps il se met en acidose les 3 premiers jours. Donc il faut prendre des compléments alimentaires qui baissent cette acidose, et ça marche très bien. Moi je l'ai essayé et ça marche très bien. C'est des citrates de magnésium plus d'autres citrates.
Ouais.
Et
super.
Ça vraiment ça prépare le corps. Au Ramadan, et on sent pas ce mal-être les premiers jours.
Et vous les prenez combien de temps avant, Lila?
Ça peut être 3 jours avant, ou 2 jours, ou même 1 jour avant. Donc
pour pas que ça fasse de choc le jour J.
Oui, mais si on oublie, si on n'a pas, on n'y a pas pensé, donc on peut les prendre un jour avant, mais ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. On peut même faire une cure de 10 jours, c'est-à-dire une semaine avant, 3 jours après, et ça marche très bien.
Merci beaucoup.
Super.
Merci beaucoup.
Lila, vous avez la vidéo sur l'hernie discale, hein, sur la chaîne YouTube de Beurre FM, si vous voulez. Et puis on refera une émission parce qu'il y a eu énormément de questions sur la hernie discale, donc on va refaire d'accord. ça d'ici le prochain trimestre.
D'accord, très bien. Bah, je vais essayer. Je vais oublier, c'est sûr.
Ah non, si vous envoyez l'information déjà comme ça, je vais oublier, c'est sûr. Non, dites plutôt, je vais m'en rappeler, c'est sûr. Voilà, faut ancrer ça dans le cerveau. Si vous vous injectez toute seule du « je vais oublier », c'est sûr, bah là, c'est sûr, vous allez oublier. C'est comme si vous donniez un ordre à votre cerveau. Non, dites-moi, je vais m'en rappeler, c'est sûr.
Soyons positifs.
Bah, notez-le sur un post-it et collez-le sur le frigidaire. Le frigidaire, on l'ouvre tous les jours. Comme ça, c'est...
D'accord, je vais le coller dans la voiture parce que le matin, je suis dans la voiture. Et...
Exactement.
D'accord,
nickel,
très bien.
Nickel, bonne journée à vous, Lila. Et à très
merci
bientôt.
Merci à vous aussi, au revoir.
À bientôt, revoir. Lila. Alors, on parlait d'une habitude comme le fait de se lever plus tôt le matin. Est-ce que vous avez un hack, Nabil?
Ouais, bien sûr. Ça, c'est un truc qui revient assez souvent. Déjà, la première des choses, parce que voilà, là, faut aller aux fondamentaux, entre guillemets. Quand tu discutes avec les gens, ils disent, ouais, j'aimerais bien me lever plus tôt le matin, mais j'arrive pas. Ok, ça, c'est le constat. Déjà, ça part d'une bonne intention, t'as envie de te lever plus tôt, mais t'arrives pas. Mais la vraie question, c'est pourquoi tu veux te lever plus tôt, en fait? Bah ouais. Parce que si tu te lèves plus tôt et que t'as rien à faire, bah, y a de fortes chances que tu retournes dormir. Tu me dis, ouais, je veux me lever à 5 heures. Ouais, mais si tu te lèves à 5 heures pour tourner les pouces, tu vas retourner dans le lit, c'est illico presto. Donc déjà, prends le temps de définir pourquoi tu veux te lever le matin. Et c'est une vraie question, hein, je vous dis ça parce que je l'ai déjà posé plusieurs fois. Ok, c'est super, tu veux te lever tôt le matin. Mais en quoi c'est important pour toi de te lever tôt le matin?
Parce que les autres le font, parce que c'est la mode.
Ah ouais, mais là, t'es plus sur toi, en fait. Parce que les autres font, mais toi, d'accord, admettons, demain, tu te lèves 2 heures plus tôt, c'est quoi? D'abord, prends le temps de définir. Une fois que tu as défini, ok, c'est pour ça, c'est pour ci, pour ça, peu importe, parce que, par exemple, tu veux rentrer une routine matinale. Mmh. Tiens, je vais vous donner une technique pour répondre à votre question directement. Admettons, tu veux te lever 1 heure plus tôt. Ok, 1 heure plus tôt, c'est cool. En 1 heure, tu peux inclure un peu de sport, tu peux inclure de la lecture, de la méditation, il y a pas mal de choses. Bah, tu sais ce que tu fais? Tu commences par mettre ton réveil 2 minutes plus tôt, chaque jour. C'est un peu comme l'histoire de la caféine tout à l'heure avec Marlène. 2 minutes plus tôt chaque jour. Pourquoi? Parce que 2 minutes plus tôt, admettons, tu te réveilles à 7h. Si tu mets ton réveil à 6h58, il n'y a rien qui change en vrai. 2 minutes, ça ne va pas faire la différence, ça ne va pas beaucoup t'embêter. Sauf que 2 minutes tous les jours, c'est un peu la méthode Kaizen, en fait la méthode des petits pas. 2 minutes plus 2 minutes plus 2 minutes, bah, au bout de 30 jours, tu as 1 heure. Mmh. Et tu ne l'as même pas senti. Donc dis-toi que si tu es capable de te lever 2 minutes plus tôt par jour, 2 minutes, c'est rien. Pendant un mois, et ben, au bout d'un mois, en fait, ça y est, tu as gratté 1 heure. Et tu l'as ad vitam aeternam, en fait. Tu peux le faire tout le temps. Donc juste, par exemple, pour en revenir à votre question, mets ton réveil 2 minutes plus tôt par jour. Après, si tu n'es pas capable de mettre ton réveil 2 minutes plus tôt par jour, là, on est dans autre chose.
Là, c'est autre chose.
C'est ouais. vraiment que tu n'as pas envie de le ouais. faire. Mais si vraiment tu as envie de le faire, il y a une méthode simple. Et celle-là, je l'ai faite à je ne sais combien de personnes qui m'ont demandé. C'est simple et c'est efficace. 2 minutes par jour, au bout de 30 jours, tu as 1 heure. Ça, c'est... Tords-le dans tous les sens. C'est comme ça.
Mmh. Mais encore une fois, il faut avoir une bonne raison.
Encore une fois, il faut avoir une raison, bien sûr. Mais déjà, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je mets des petites étapes, en fait. C'est que, par exemple, tu te mets 2 minutes par jour. D'accord. Bah, au bout de 6 jours, déjà, par exemple, tu as 12 minutes. Ah, ok. Qu'est-ce que je peux inclure déjà dans ces premières 12 minutes? Ah, 12 minutes, c'est cool. Je peux faire 12 minutes de lecture. Ok, c'est mortel. Donc, déjà, au bout de 6 jours, tu sais que tu as 12 minutes de lecture. Et pour quelqu'un, par exemple, qui n'a pas l'habitude de lire, en réalité, tu peux bénéficier de l'effet cumulé. Par exemple, au début, tu lis que 10 minutes, que 12 minutes. Et petit à petit, tu augmentes comme ça. Après, une fois que tu as 20 minutes, tu peux mettre 5 minutes de sport. Ça peut être un petit peu des pompes, un petit peu de trucs. Après, tu peux mettre 5 minutes de méditation ou commencer par la méditation. Après, c'est à la guise de l'imaginaire. Mais petit à petit, et comme ça, tu ne le sens pas du tout. Parce que si tu veux commencer pas comme ton pote ou comme ton ami qui, elle se lève à 5 heures du mat, elle sort cavaler dehors et tout, bah, y a de fortes chances que tu n'y arrives pas. Et en réalité, en fait, tu verras qu'une habitude ne devient une habitude que quand ça devient plus difficile de ne pas le faire que de le faire. Et c'est là, en fait. Parce qu'il y a plein de gens qui te disent « Ouais, j'ai l'habitude de... » Non, c'est pas une habitude. Une habitude, d'ailleurs, notez-le quelque part si vous voulez, une habitude ne devient une habitude que quand ça devient plus difficile de ne pas le faire que de le faire. Vous prenez n'importe qui a l'habitude de faire, tiens, pour prendre le sport par exemple, vous prenez un mec ou une nana qui a l'habitude d'aller courir le matin, je peux vous assurer que le jour où elle va pas faire son sport, elle est pas bien. Elle est vraiment pas bien. Elle est en mode « Ouais, j'ai pas été couru ce matin. » Bah, un peu comme Marlène tout à l'heure, qui quand elle se réveille pas, voilà, ça c'est une habitude.
Elle est pas bien. Ouais.
Tu sens que ça te démange. Et une habitude ne devient une habitude que quand ça devient plus difficile de ne pas le faire que de le faire.
On entend souvent des gens dire « Voilà, j'apprendrai bien une langue. » J'en connais qui ont acheté des méthodes de langue récemment.
Ouais, exact, exact. Mais c'est pareil en fait. Tu vois, déjà, on en revient toujours à la première des choses là. Pourquoi? Pourquoi? Attends, pourquoi? Combien de fois j'ai parlé de ce pourquoi-là? Start with the why de Simon Sinek. Petit rappel, mais il me semble qu'on en avait parlé. C'est un super livre. Commencez par pourquoi de Simon Sinek, qui est la base de toute chose. Tu vas apprendre les langues, mais si tu veux apprendre l'anglais juste pour apprendre l'anglais, et que c'est pas important pour toi, tu veux faire ça comme les autres, mais il y a de fortes chances que tu t'auto-sabotes. Si t'as une vraie raison valable. En fait, la porte du changement, tiens. Pour moi, le changement, quel que soit le changement, parce que là, on arrive à la fin de l'année, tout le monde veut changer. Il n'y a pas une personne avec qui tu discutes qui ne veut pas changer. Mais pour la porte, quand tu veux changer, en fait, déjà, premièrement, il faut savoir que la porte du changement, elle s'ouvre que de l'intérieur. Donc, si tu attends que quelqu'un t'ouvre la porte, non, on peut te donner un petit coup de main, on peut te donner une direction, mais la porte du changement, elle ne s'ouvre que de l'intérieur. Et quand tu vas vouloir ouvrir la porte du changement, pour moi, il y a trois serrures qui ouvrent la porte du changement. Il y a la serrure du savoir-faire. Ça, c'est la première des serrures. Il y a la serrure de la connaissance et il y a la serrure du désir. Et je vais vous expliquer ce qu'il en est. La première des serrures, c'est la serrure de la connaissance en vrai, qui est qu'est-ce que je veux changer et pourquoi ? Bah ouais, c'est qu'est-ce que je veux faire et pourquoi ? C'est quoi ? Qu'est-ce que tu veux changer ? D'accord ? Ok ? Et pourquoi tu veux le changer ? Une fois que tu as cette serrure-là, clac, tu as ouvert la serrure. Après là, tu arrives sur la serrure du savoir-faire, qui est le comment en vérité. Mais tu peux pas avoir le comment si tu sais pas quoi et pourquoi. D'abord, si je te dis comment faire une tarte au citron meringuée, si en vérité tu t'en fous de la tarte au citron meringuée, ça te sert à rien. Par contre, si tu veux ça, tu sais que tu veux faire la tarte au citron meringuée, ok, là c'est le, là, ok, tu t'as la connaissance. On arrive au savoir-faire. Comment faire la tarte au citron meringuée? Là, tu vas arriver dans le comment. Une fois que tu arrives dans le comment, ok, tu ouvres la serrure du comment et là t'arrives à la troisième serrure qui est la serrure du désir.
C'est un peu comme Fort Boyard, votre truc.
C'est exactement ça. C'est la serrure du désir. Il faut vouloir le faire. Et c'est celle-là qui ouvre tout, en vérité. Parce que si tu veux pas le faire, je peux te donner la recette de la tarte au citron meringuée. Je peux te dire comment la faire. Si t'as pas envie de le faire, tu le fais pas. Et si t'as un désir ardent de le faire, en fait, les deux autres serrures, elles s'ouvrent toutes seules. Après, t'arrives à la porte du... Bon, je vous fais un récap. Le savoir-faire, la connaissance et le désir. C'est les trois clés qui ouvrent la porte du changement. Donc, c'est la base de toute chose, selon moi.
Bien, en gros, pour votre méthode de langue, vous allez y passer combien de temps par jour?
Ça dépend de tout un chacun, combien de temps tu peux allouer à cette activité-là. Et tout dépend de ton degré d'engagement, si c'est important pour toi ou pas. Il y a des gens qui peuvent mettre une heure, mais il y a des gens qui peuvent mettre que cinq minutes. Et je pars du postulat où si vous voulez figer une habitude, par exemple, admettons si on prend les langues, tu dis bon, bah, je veux faire de l'anglais trois fois par semaine. Si tu veux commencer à figer ton habitude, fais-le tous les jours, quitte à réduire le temps. Tu dis voilà, ok, moi je peux allouer 20 minutes à l'anglais. Ok, bah, ne fais pas 20 minutes, fais que 10 minutes tous les jours pendant 30 jours. Comme ça, tu vas figer un peu l'habitude. Et une fois que tu as figé l'habitude, c'est bien plus facile de le figer en mettant une somme plus petite, en l'occurrence. Et ensuite, tu rajoutes du temps. Une fois que tu as pris l'habitude de faire de l'anglais, même si tu fais de l'anglais que 3 minutes par jour, admettons, ok, tu veux faire ça. Tiens, je vais vous raconter un truc. Quand j'ai commencé à vouloir apprendre l'anglais, je commençais avec Duolingo. Duolingo, c'est une application qu'il y a sur téléphone. Je me suis dit, comment je vais figer l'habitude? Bah, en allant aux toilettes. Ça paraît peut-être ouf, mais je sais que je vais aux toilettes tous les jours. Je me suis dit, plutôt que d'être, parce que j'avais pris la sale habitude de prendre mon téléphone avec moi pendant que je vais aux toilettes, je me suis dit, ok, là, je vais aux toilettes, c'est Duolingo. Et bah, que tu le veuilles ou non, en vérité, bah, tu fais de l'anglais tous les jours. Trois minutes par jour. Et puis, une fois que l'habitude, elle est faite, rien ne t'empêche de rajouter. Et c'est valable pour toute chose. Tout à l'heure, on parlait de la course. Une fois que tu prends l'habitude d'aller courir 5 minutes par jour, et bah, rien ne t'empêche d'aller courir 7 minutes, 8 minutes, 10 minutes, une fois que l'habitude est figée. Commence plus petit. Regarde le temps qui t'est alloué, tu dis ok, combien je peux faire? 10, 15, 20, 1 heure, et divise-le par deux et fais-le tous les jours. Tu verras que c'est bien plus
simple. Voilà, ça ancre l'habitude.
Exactement.
Bon, la formation, c'est vendredi donc.
C'est vendredi, ce sera disponible sur ma chaîne Instagram, sur Nabil Tatankwa ou Tatankwa, disponible sur Facebook, sur Tatankwa, ou même en allant sur YouTube, Nabil Tatankwa ou Tatankwa, je mettrai le lien.
Voilà,
en tout cas, comment figer une habitude en 7 étapes, et d'ailleurs, je vais faire un prix de lancement. Je me suis dit, je voulais faire un prix de toxico pour que tout le monde puisse avoir accès. J'en ai marre des formations qui coûtent cher et je me dis, attends, peut-être que la personne, à part d'un bon sentiment, elle a envie de changer et justement, elle a envie de changer pour faire des sous. Et si elle n'a pas d'argent pour prendre la formation, ça ne sert à rien. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais faire un prix de toxico comme ça. Il n'y a pas de raison, en fait. Un prix de toxico, la formation, elle est condensée. Si tu veux changer, let's go. Ça se passe à partir de vendredi sur Nabil, t'attends quoi?
Voilà. Et d'ici là,
t'attends quoi pour changer?
Rendez-vous en 2020. Merci, Nabil. Demain, pour le 25, on parlera de ceux que les fêtes dépriment. Il y en a que les fêtes rendent joyeux.
Ouais, c'est vrai.
Et puis il y en a que...
stimuli.
Voilà, qui sont déprimés chez eux pendant les fêtes. On en parlera demain avec le grand retour de Maximilien Bachelard. À demain.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.